Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, soit en direct, soit en différé, bien sûr. Vous avez la possibilité de récupérer les podcasts des émissions de Graphite sur le site Internet, profitez-en. Et puis vous suivez bien sûr l'actualité de Graphite sur la page Facebook. Je m'appelle Jean-Noël, je suis content de vous retrouver pour cette émission Biotine. Aujourd'hui, 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Au niveau de l'éphéméride, il n'y a pas grand-chose. Hein, en fait, on a découvert Alpha Centauri, qui est une exoplanète connue la plus proche de la Terre et également la moins massive jamais découverte autour d'une étoile qui est comparable au Soleil. On a découvert ça en 2012. Au niveau des naissances, c'est l'anniversaire aujourd'hui de James Newman, astronaute américain. Il est né le 16 octobre 1956. Il a donc 65 ans aujourd'hui. C'est un ancien élève de l'International Space University, donc l'université international de l'espace. Physicien, il réalisa 4 vols en tant que spécialiste de mission. C'était les missions Discovery, Endeavour et Columbia. C'était dans les années 90 jusqu'à 2002. James Newman, 65 ans aujourd'hui, bon anniversaire. Et décès le 16 octobre 1966 de Jacques de Buchère, psychiatre belge, membre de la Société royale de médecine mentale de Belgique. Au niveau de l'actualité scientifique, j'avais pas eu le temps de revenir sur cette information qu'on avait. On était passé un petit peu à travers, mais en tout cas, c'est assez intéressant, entre guillemets. Revenons en novembre 2020, le 27 novembre précisément, le plus haut scientifique nucléaire iranien, il s'appelle Mohsen Fakhrizadeh, il a été assassiné, et il a bien été assassiné par une mitrailleuse robotisée piloté par satellite. C'est ce qu'a annoncé le New York Times. Ce professeur de physique se consacrait au programme iranien nucléaire, que ce soit vocation civile ou militaire, avec le développement d'ogives nucléaires. Et il avait été atteint mortellement par 4 balles de calibre 7,62 dans sa voiture alors qu'il emmenait son épouse dans leur maison de campagne à l'est de Téhéran. Alors l'arme était dissimulée dans un camion rempli de gravats qui était garé à proximité du passage de la voiture. Et donc dans ce camion, il y avait un système d'armes qui pesait environ une tonne. Et on l'avait introduit en Iran pièce par pièce, ce système, bien sûr pour déjouer les contrôles. Et on avait assemblé tout ça sur place. Et c'est un ensemble de caméras qui a permis au Mossad de piloter à une distance de 1500 km la mitrailleuse en passant par un relais de communication par satellite. Mais comme ce contrôle à distance par satellite engendre un peu un retard d'une seconde et demie, eh bien, il y a une intelligence artificielle qui est venue un peu épauler les agents pour anticiper les mouvements de l'automobile. Et de même, l'intelligence artificielle, elle intégrait également un système de reconnaissance faciale. L'idée, c'était de bien s'assurer que c'était bien la bonne personne qui serait ciblée. C'est une attaque qui a donc, du coup, permis d'épargner son épouse. Et preuve de sa précision, eh bien, ça a engendré très peu de dégâts sur le véhicule. Alors, le camion emportait également une charge explosive parce que c'était l'idée de détruire l'ensemble après avoir abattu le scientifique. Problème, l'explosion n'a pas entièrement détruit le système d'armes et les gardiens de la révolution dont faisait partie ce scientifique iranien ont ainsi pu identifier la sophistication de ce mode opérationnel et l'ont dénoncé. Alors, il faut dire que ça faisait quand même 14 ans que le scientifique était dans la ligne de mire des services de renseignement israéliens et il était régulièrement quand même l'objet de complots et de menaces. Il souhaitait conserver un mode de vie normal, il ignorait les protocoles de sécurité pour mener ses activités privées. C'est ce qui a conduit à sa perte. Mais donc, voilà, ce scientifique iranien a bien été assassiné à l'aide d'une intelligence artificielle. C'est à la fois techniquement quand même une belle réussite. Après, ça pose des questions plus éthiques, on va dire, parce que du coup, l'intelligence artificielle, là, commence à prendre le pas sur beaucoup de choses et qui nous dépassent peut-être un peu. En tout cas, j'ai pense, c'est la première fois qu'on entend ce genre d'informations, ou en tout cas que ça a été communiqué, bien sûr, mais parce qu'il y a peut-être d'autres choses que l'on ne sait pas bien, c'est possible. Mais voilà, ça a été confirmé, et bien sûr, les relations entre Iran et Israël ne vont pas s'améliorer après ça, c'est certain. Allez, on écoute un peu de musique R.E.M. Tiens, déjà longtemps qu'on ne l'a pas écouté sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite. REM sur l'antenne de Graphique avec The One I Love. On écoute ensemble Biotine. On écoute, je parle, vous écoutez sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. En fait, il n'y en a qu'un qui travaille dans cette affaire et c'est moi, bien évidemment. Alors, deux informations. La première, elle est assez intéressante, ça concerne les robots. En 2018, il y avait un robot qui s'appelait Jet HR1 qui s'était fait remarquer à l'époque grâce à ses hélices carénées qui étaient intégrées dans ses pieds. Si bien que ça lui permettait de déplacer son centre de gravité et ça lui permettait surtout d'effectuer des grandes enjambées pour pouvoir passer au-dessus de trous dans le sol. Eh bien, l'université de technologie du Guangdong en Chine vient de dévoiler son successeur qui s'appelle Jet HR2 qui cette fois-ci lui est capable de voler. C'est quand même assez intéressant. C'est le premier robot humanoïde volant qui est équipé de 4 soufflantes. Il y en a 2 qui sont fixées au niveau de la taille, une dans les pieds. Et en fait, il peut décoller et atteindre 1 mètre de hauteur. Alors, ce robot pèse 17 kilos et puis chaque soufflante est capable de soulever 5 kilos chacune. Donc, on a une poussée de 20 kilos pour quelque chose qui pèse 17. Donc quelque part, le rapport de poussée sur poids est assez faible, si bien que ça rend la stabilisation un peu difficile. Alors, il y a une vidéo qui existe que vous pouvez regarder sur Internet. On y voit que les chercheurs ont présenté leur progrès actuel en utilisant les soufflantes dans les pieds pour la poussée vectorielle. Et donc, ce robot parvient à un décollage un peu plus contrôlé, même s'il est quand même toujours nécessaire de l'attraper au vol pour l'atterrissage. Alors, les chercheurs ont justifié leur choix d'un robot humanoïde volant pour des opérations de secours. Un robot humanoïde présente certains avantages, mais il n'est généralement pas capable de se déplacer sur un terrain accidenté. Donc il y a un futur robot qui va être basé sur celui-ci, qui pourra lui sauter ou voler au-dessus des obstacles. Alors il faudra être patient pour découvrir de plus amples informations, puisque la prochaine publication est prévue pour la conférence de robotique internationale qui est prévue en mai 2022. Donc on n'aura peut-être pas trop d'informations d'ici là, mais en tout cas, ce premier robot humanoïde volant, vous pouvez regarder, il y a des vidéos qui circulent un peu sur Internet. C'est vrai que c'est assez fascinant et assez intéressant. Autre information, c'est lié à l'actualité. Depuis fin août, on le sait, la vitesse est limitée à 30 km/h dans Paris sur la majorité des voies de circulation. Et il y a une mesure qui est déjà similaire et qui est en vigueur quand même dans de nombreuses villes de France, Grenoble, Lille, Nantes, Montpellier. Et cette mesure s'appuie sur trois arguments principaux. La sécurité qui est accrue, la réduction du bruit et la diminution de la pollution. Eh bien, c'est sur ce dernier point, en fait, que cette mesure est la plus discutable. Il y a une étude qui a été menée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, l'aménagement, c'est le CEREMA. Et selon lui, donc, les voitures polluent moins en roulant à 30 km/h qu'en roulant à 50 km/h. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Cet organisme d'études a modélisé, en utilisant un logiciel assez spécifique, les courbes d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de la vitesse moyenne. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que une voiture qui roule à 70 km/h va avoir, c'est là où on va émettre le moins de gaz à effet de serre, à 70 km/h. Quand c'est un véhicule utilitaire, c'est plutôt 60 km/h. Et ce qui est intéressant, c'est que la courbe que l'on voit, c'est une courbe en forme de U. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on roule à 130 km/h, c'est là où on a le maximum d'émissions de gaz à effet de serre. Mais à faible, très faible vitesse, c'est aussi le cas. 10, 20 km/h, eh bien, on se rend compte que c'est à peu près équivalent aux 130 km/h. C'est-à-dire que quand on roule très doucement, eh bien, on émet quand même beaucoup de gaz à effet de serre. Pourquoi ? C'est parce que dans ce cas-là, on est dans le cas d'un trafic assez dense, si bien qu'on va avoir de l'accélération, du freinage, de l'accélération, du freinage, ce qu'on appelle le stop and go. Et donc, du coup, on va avoir une activité au niveau de la voiture qui fait que ça va quand même produire pas mal de polluants quand on est sur des basses températures, des basses vitesses. Mais le fait de dire on va mettre en place un 30 km/h, on se retrouve dans un côté un peu pernicieux parce que l'idée, en tout cas c'est le CEREMA qui l'explique très bien, les automobilistes vont se dire ah mais du coup je vais négliger ces zones à 30 km/h et me reporter sur des axes routiers où on va circuler un petit peu plus vite. Et donc du coup quelque part on décale le problème, on ne le résout pas. Ce que préconise le CEREMA, c'est d'avoir une généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h sur un périmètre assez large. Et en l'occurrence, là, on parle de la ville de Paris. Alors, il est encore trop tôt pour avoir une étude et une analyse quand même des conséquences de cette décision. Ce que l'on voit, c'est que ce qui a été fait, par exemple, à Grenoble, et il y a une étude qui a été réalisée en 2016 et qui a expliqué, en fait, que les 30 km/h n'est pas la conséquence directe de la baisse de la pollution. C'est, en fait, que le 30 km/h va décourager certains automobilistes qui vont du coup délaisser leur voiture. Si bien que, comme il y a moins de voitures, on a une baisse de la pollution. Vous voyez, c'est un petit peu un lien indirect. Donc, c'est une étude qui avait été menée à Grenoble. On attend d'en savoir un petit peu plus sur cette mesure mise en place à Paris, parce que du coup, on est sur une zone assez importante et on est aussi sur un trafic urbain assez conséquent. Et on verra voilà, ce que pourra annoncer par la suite ce CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui, bien sûr, suivra de près l'évolution du trafic parisien pour voir si on reporte ou on résout ce problème de pollution urbaine. Voilà, c'était deux sujets. Voilà, un robot humanoïde volant et une décision politique dont on va analyser maintenant les répercussions d'un point de vue scientifique. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Et pour se faire plaisir, on va parler des animaux. Leave it alone, c'était Operator Please sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Comme promis, on va parler des animaux. Il y a déjà longtemps qu'on n'a pas parlé des animaux dans cette émission. Alors, il y a des informations très sympas, mais je voulais commencer par cette nouvelle qui ne va pas manquer de faire réagir tous les défenseurs du bien-être animal. Selon une étude de chercheurs danois, 85% des poules d'élevage présentent des fractures du bréchet parce qu'elles pondent des œufs trop gros. Une poule sauvage pond environ 20 œufs par an, tandis qu'une poule pondeuse moderne produit environ 320 œufs par an. 320 œufs par an, je vais y arriver. La ponte exerce une telle pression sur les poules qu'elle entraîne des fractures osseuses. C'est ce qu'explique Ida Toffner du département des sciences vétérinaires et animales de l'université de Copenhague, qui est donc le principal auteur de cet article paru dans la revue PLOS ONE. Elle a examiné près de 5000 poules dans 40 élevages différents et elle a constaté des fractures du bréchet chez près de 80% de ces poules. Le problème ne vient pas des conditions d'élevage parce qu'elle explique « Nous voyons ce type de fracture aussi bien chez les poules élevées en cage que dans les élevages biologiques en plein air ». Comme les fractures surviennent principalement à l'extrémité du bréchet, cela suggère plutôt que la taille des œufs est en cause. Plus les œufs sont gros et plus la poule est petite, et plus les fractures sont importantes. Alors selon les calculs, le risque de fracture augmente de 3% pour chaque gramme de poids en plus des œufs au début de la ponte. Alors l'équation, elle est simple. D'un côté, on a des poules pondeuses qui sont sélectionnées pour être les plus petites possibles et occuper moins de place. Et puis de l'autre côté, eh bien, on cherche à obtenir des œufs de plus en plus gros. Alors résultat, il y a une morphologie qui est complètement inadaptée et qui conduit à des fractures douloureuses. Selon une autre étude qui date de l'année dernière cette fois, 88% des poules d'élevage présenteraient une déformation du bréchet et du sternum en raison des croisements génétiques. Et de plus, les poules sont amenées à pondre de plus en plus tôt, alors que leur corps n'est pas totalement développé. Et puis enfin, les fractures sont aussi souvent attribuées à une carence en calcium parce que l'énorme production d'œufs nécessite de pomper dans les réserves de la poule pour ses propres os. Donc, au bout d'un moment, ça ne peut plus durer comme ça. Le problème est choquant au point de vue, bien sûr, du bien-être animal, mais il occasionne aussi des pertes pour les éleveurs parce que ce type de fracture est difficile à guérir. La mauvaise ossification combinée avec l'inactivité, ça va favoriser la survenue de maladies, ça va réduire la productivité, donc ça ne peut pas aller. Alors, les chercheurs suggèrent plusieurs pistes pour améliorer la situation. Par exemple, de reporter la première ponte de quelques semaines jusqu'à ce que les poules soient un peu plus robustes et que l'os soit un petit peu plus résistant. Il y a d'autres interventions, comme le fait d'apporter des acides gras qui ont montré une certaine efficacité de réduction du risque de fracture. En fait, le vrai problème, c'est la sélection génétique à outrance. On constate qu'il y a des porcs qui ont l'arrière-train surdimensionné et qui sont ainsi victimes d'hernies. Il y a des poulets qui sont destinés à la consommation de viande qui grossissent de manière tellement disproportionnée que leurs articulations ne peuvent même plus soutenir leur propre poids. Selon une étude européenne récente, 30% des poulets de chair élevés de manière standard présentaient des anomalies aux pattes. Je veux dire, au bout d'un moment, l'agriculture intensive, à outrance, évidemment, ça provoque quelques difficultés, vous voyez. Mais en tout cas, cette étude danoise est assez intéressante parce qu'à mon avis, je crois que c'est la première fois qu'on aborde ce genre de sujet dans cette émission. Mais voilà, cette étude, quelque part, confirmait un petit peu ce que l'on pressentait malheureusement. Mais en tout cas, voilà, ça a eu un certain impact au sein des milieux du défenseur du bien-être animal, bien évidemment, parce qu'on voit cette fois articles scientifiques à l'appui, les conséquences assez dramatiques de cette agriculture intensive, bien sûr. Le reste des informations qu'on va évoquer au niveau des animaux vont quand même être un petit peu plus sympa, heureusement, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, on veut quand même avoir des informations sympas et intéressantes. Et on va parler des perroquets, ça va être sympa. On sait bien sûr que les perroquets sont des animaux capables d'apprendre et de reproduire des sons, bien sûr. Ils sont assez rares, ce genre d'animaux. On a observé ça chez les colibris, mais en fait, ça intervient dans des circonstances assez exceptionnelles. Et on a un peu l'impression qu'on ne connaissait pas d'autres animaux qui seraient capables de cela. Eh bien, il y a des chercheurs australiens qui ont découvert une espèce de canard originaire d'Australie, justement, cette espèce de canard posséderait elle aussi le don d'imiter différents sons, dont des expressions humaines. Ces chercheurs ont en fait exhumé le son d'un canard qui s'appelait Ripper, qui était élevé dans une réserve naturelle située à 50 km de Canberra. Et en fait, dans ces enregistrements, on peut entendre ce canard répéter distinctement une phrase semblable un peu à « you bloody fool », genre espèce d'imbécile. Et selon les chercheurs, eh bien, ces phrases ont très probablement été prononcées à plusieurs reprises par le gardien. Mais on ne sait pas quel âge, en fait, le canard Ripper, il avait quand il a été exposé à ce genre de phrases pour la première fois. Il avait 4 ans au moment des enregistrements. Et ce canard a également été capable de reproduire le claquement d'une porte située à quelques mètres de l'endroit où il vivait. Et sur un autre enregistrement, eh bien, figure le son d'un autre canard qui, lui, imitait une autre espèce de canard, en fait. Ils n'ont pas tous la même voix. Et en fait, il imitait l'autre espèce de canard. C'est assez intéressant. En fait, c'est un chercheur australien à la retraite qui s'appelle Peter Fulagar qui avait enregistré ce canard Ripper pour la première fois il y a plus de 30 ans. Mais ces enregistrements n'ont refait surface que récemment par le professeur Karel ten Cait de l'université de Leyde aux Pays-Bas. En fait, il était tombé sur une espèce de référence assez obscure dans un livre sur les vocalisations d'oiseaux où c'était marqué dans ce bouquin, il y a un canard parlant. Et en fait, il s'est dit au départ, c'était un petit peu un canular. Ça peut pas être vrai, mais en fait, il a récupéré les enregistrements, il les a entendus, il s'est avéré que ces canards qui s'appellent Erymastura barbillon, une espèce de canard d'Australie, ils sont bien doués du talent d'imitateur. Alors, il y a au moins deux autres espèces de canards qui ont des compétences similaires, qui ont pu être écoutées, même s'il n'existe aucun enregistrement de leur vocalise. Il y a notamment un canard du parc naturel de Painthorpe au Royaume-Uni qui a ainsi été entendu comme imitant un genre de poney qui renifle. Donc voilà, il a entendu un poney qui renifle et puis il l'a imité. Et puis il y a un autre canard de la réserve de Slimbridge en Angleterre qui a reproduit la toux caractéristique du gardien. Et également, il imitait le grincement d'un tourniquet. C'est quand même assez fascinant. En fait, la faculté de ce canard serait liée à son mode de vie particulier parce que les petits entretiennent un contact étroit avec leurs parents et peuvent donc être fortement influencés par eux dès le début de la vie. Et cette espèce, ça donne également une espèce de parade nuptiale qui est assez inhabituelle chez les oiseaux. Et les capacités de vocalise pourraient donc jouer un petit peu un rôle dans ce contexte. Alors selon les auteurs de cette étude, une étude revue parue dans une revue scientifique qui est la Philosophical Transactions of the Royal Society, la Société Royale Britannique, eh bien, il y a deux hypothèses qui ont été mises sur la table pour expliquer un petit peu la rareté de ce phénomène. Premier, eh bien, le don d'imitation est issu d'un ancêtre commun des oiseaux et ça aurait disparu chez presque tous les autres groupes. Deuxième hypothèse, eh bien, ce don a évolué indépendamment chez les différentes espèces. Alors, outre les oiseaux, l'imitation a été observée chez certains mammifères. Les baleines, les dauphins, les phoques, les chauves-souris, les éléphants d'Asie également seraient apparemment capables d'imiter. Mais voilà, les canards imitent aussi la voix humaine. On aura appris de tout dans cette émission. Mais voyez, ce genre d'information, c'est toujours bien de pouvoir le dire à un moment, à un repas assez important, pour pouvoir étaler sa science. Ça, c'est toujours intéressant. Allez, on écoute un peu de musique et on se retrouve. Pour continuer à parler des animaux, on va parler des orangs-outans juste après Joy Division sur l'antenne de Graphite.
Thank you.
Love Will Tear You Apart. C'était Joy Division sur l'antenne de Graphite. Orang-outan, c'est quand même un drôle de nom en fait, mais c'est pas donné par hasard. En Malaisie, c'est là où ce grand singe survit encore, le terme orang-outan signifie homme de la forêt. Et on comprend donc que ce nom lui a été donné pour marquer le fait que ce singe passe la majeure partie de son temps dans les arbres. Il y cherche des fruits, il y cherche des feuilles, il y cherche des insectes dont il se régale bien sûr. Autrefois, l'orang-outan prospérait sur l'ensemble du continent asiatique. Il n'est aujourd'hui plus présent à l'état sauvage que sur deux petites îles, l'île de Sumatra et l'île de Bornéo. Et comme toujours, bien sûr, ce sont les activités humaines qui sont responsables de sa lente disparition. La destruction et même la fragmentation de son habitat pour la culture de la fameuse huile de palme. Et puis aussi l'exploitation minière, la construction d'infrastructures. Bref, tout ça, on rajoute la chasse et le commerce d'animaux. Le réchauffement climatique, n'en jetez plus, c'est difficile pour l'orang-outan. Alors, derrière son aspect un peu débonnaire, hein, c'est vrai, se cache quand même un grand singe particulièrement futé. Il est capable de résoudre des problèmes plutôt complexes. Il y a quelques années, il y a des chercheurs qui ont voulu le piéger. Ils ont placé face à quelques individus qui vivaient en captivité, ils ont placé des cacahuètes, des arachides, dans des tubes de verre qui flottaient sur de l'eau. Alors, c'était des arachides qui étaient inaccessibles si les orang-outans en question n'avaient dû utiliser que leurs mains. Et bien, ils ont quand même réussi à trouver une solution. Ils ont aspiré de l'eau dans leur bouche. Ils l'ont recraché dans les tubes pour faire monter le niveau et pouvoir ainsi pouvoir récupérer la cacahuète. Et donc voilà, une expérience qui avait été menée. L'orang-outan, c'est pas le seul animal à savoir utiliser des outils, mais il pousse cette capacité un peu plus loin que les autres. Et pas seulement parce que lui, il est un peu comme nous, il a un pouce opposable qui lui permet de se saisir et de manipuler assez facilement toutes sortes d'objets. C'est surtout parce que l'orang-outan, il se révèle vraiment plein de ressources et puis en plus, il est fin observateur. Dans les zoos, il y a les éthologues. Les éthologues sont ceux qui vont étudier le comportement des animaux. Ils ont constaté que ce grand singe aime prendre le temps d'étudier le comportement des autres, y compris celui des hommes, et que cela aurait un petit peu encouragé le développement de son intelligence. Il paraît que certains se sont même mis à se brosser les dents, c'est dire. Mais sont-ils bons pour l'imitation comme les canards ? Pas vraiment, c'est ce que démentent en tout cas les chercheurs allemands. Et pour le vérifier, ils ont fourni à des individus captifs du zoo de Leipzig en Allemagne, et ils ont aussi travaillé à Zurich en Suisse. Ils leur ont fourni des noix dures, des branches pour utiliser comme des marteaux et un bloc de bois qui pourrait servir d'enclume. Et en fait, les orang-outans les plus âgés, ils ont choisi de compter sur leurs dents pour casser la noix. Ça a marché. Donc l'expérience est terminée pour eux. Mais il y en a d'autres qui ont spontanément utilisé les outils qui étaient mis à leur disposition. Et donc les orang-outans, ils seraient peut-être capables d'apprendre par eux-mêmes un comportement aussi compliqué que celui d'utiliser un outil pour casser des noix. C'est l'un des comportements les plus complexes qui soit, d'après les scientifiques. Et donc du coup, ils savent pas imiter, ils savent réfléchir et ils savent créer également et utiliser d'instinct des marteaux. C'est-à-dire spontanément, ils ont compris que là, il y avait quelque chose qui pouvait les aider. Voilà, ça c'est toujours intéressant sur le site Futura Science. On a quelques articles sur les animaux qu'ils appellent bêtes de science. Oui, effectivement, parce qu'on apprend sur leur comportement peut-être aussi des choses qu'on peut apprendre sur notre propre comportement humain, bien sûr. Voilà, ça c'était les orang-outans. Autre chose, eh bien, c'est 15 millions de dollars. C'est pas du tout ce que l'on va gagner, vous et moi. C'est la somme qu'une start-up américaine vient de lever, 15 millions de dollars, pour ressusciter le mammouth laineux, une espèce qui peuplait l'Eurasie septentrionale et l'Amérique du Nord pendant le Pléistocène. Mais, on ne l'a pas vu déambuler dans les steppes depuis environ 10 000 ans. L'idée, c'est donc de ressusciter ce mammouth laineux, ou plus exactement de créer une espèce hybride qui va résister au froid et une espèce hybride de cette espèce éteinte depuis des milliards d'années. Le tout avec l'ambition d'aider à lutter contre le réchauffement climatique en restaurant des écosystèmes qui sont perdus. Ce sont des ingénieurs d'une start-up qui s'appelle Colossal qui ambitionne pour cela de s'appuyer sur l'éléphant d'Asie qui est lui-même en voie de disparition. Et l'éléphant d'Asie, c'est un parent éloigné du mammouth laineux. Il partage 99% de son ADN et un ancêtre commun. Donc du coup, on se dit qu'il y a quand même des choses, des similitudes. Et ils vont utiliser une technologie génétique, précisément la technologie des ciseaux génétiques. C'est la fameuse technologie CRISPR qu'on avait déjà évoquée dans cette émission. L'idée, en fait, c'est d'introduire des éléments d'ADN du mammouth laineux dans les cellules d'éléphant d'Asie. L'idée, c'est de produire des embryons qui vont présenter les caractéristiques les plus intéressantes des deux espèces. Des embryons qui pourraient grandir au cœur d'un utérus artificiel qu'on pourrait construire à partir de cellules souches. Ouh là là, mon Dieu, c'est quand même assez compliqué tout ça. Mais pourquoi tant d'efforts? Eh bien, la finalité, ça serait d'ouvrir aux éléphants d'Asie de nouveaux espaces dans lesquels les ingénieurs affirment qu'ils pourraient s'épanouir sans entrer en conflit avec les hommes. L'Arctique serait justement l'un de ces lieux intéressants et cela explique pourquoi les ingénieurs cherchent à enrichir l'éléphant en graisse et en fourrure pour l'aider à résister au froid et donc lui offrir des outils supplémentaires pour pouvoir survivre en somme. Alors il y a d'autres ingénieurs qui s'interrogent, ils avancent que les éléphants d'Asie sont des animaux sociaux et intelligents doués d'une culture, donc imaginer déplacer ces animaux vers des nouveaux horizons soulève aussi des questions éthiques majeures, d'autant qu'il n'est pas certain que même un véritable mammouth laineux puisse encore se sentir à l'aise dans l'Arctique aujourd'hui. Alors, sur ce point, les ingénieurs de cette start-up espèrent justement que l'introduction dans la région de leurs éléphants hybrides permettra un petit peu de remodeler les écosystèmes pour les faire ressembler à nouveau aux steppes de l'époque. Selon eux, la disparition des mammouths a favorisé le développement d'une toundra qui reflète moins bien le rayonnement du soleil et participe ainsi au réchauffement de la planète. Donc les mammouths laineux pourraient aussi aider en piétinant sans cesse la neige, eh bien, pourraient aider à empêcher le pergélisol de fondre en libérant du carbone qui était emprisonné là depuis longtemps. Alors, pour que tout ça ait une chance de fonctionner, il faudrait donner naissance à suffisamment d'éléphants hybrides. C'est ce que préviennent tout de même des chercheurs extérieurs au projet. Alors selon eux, les meilleures cibles seraient plutôt à chercher du côté des espèces plus récemment disparues ou mieux encore sur le point de disparaître et capables de se multiplier suffisamment vite pour essayer de devenir efficaces d'un point de vue écologique. Enfin, les ingénieurs de cette start-up avancent que la méthode pourrait être appliquée ensuite à des espèces aujourd'hui en danger pour aider à prévenir bien sûr leur extinction. Mais certains de leurs confrères doutent. Il y a une petite controverse au niveau des scientifiques parce que certains craignent que le financement de telles opérations médiatiques nuise aux efforts de conservation plus classiques. Ils avancent même qu'avec une somme équivalente, 15 millions de dollars, eh bien, ces efforts traditionnels pourrait sauver jusqu'à 8 fois plus d'espèces. Alors, dans le meilleur des cas, la start-up Colossal estime pouvoir être en mesure de donner naissance à un petit éléphant hybride de mammouth laineux dans environ 6 ans. Il faudra alors attendre environ 14 ans pour qu'il soit en âge de se reproduire, donc on est sur une échéance de 20 ans, et que l'on puisse alors commencer à espérer qu'il y a un effet sur le réchauffement climatique. Compte tenu de l'urgence actuelle qu'on évoque dans cette émission toutes les semaines, le timing semble de toute façon un peu serré, donc pas nécessairement efficace, mais à voir quand même cette idée de redonner vie aux mammouths laineux pour lutter contre le réchauffement climatique. Allez savoir, on essaiera de suivre bien sûr cette information par la suite, parce que c'est quand même assez intriguant, bien évidemment.
Break 'em down, my move too brittle. High grip, puff, get one, that's dizzle. Cut that steak, been sitting sizzle. Don't get rich, that's right. instant ways, instant rain. Getting deeper still like menstrual pain. Preach the over men for change. Keep and hold the pencils, the essential thing. On a need to know, sweltering heat for your pizza. Don't take away flavor for your fever, bro.
Hey, yo, what's popping over there?
Hey, yo, we're chilling over here.
Ooh, my people in the place.
Oh, forever in the air.
True brethren, spiritual monks. We in the groove session, shit is for dumb.
Hey, yo, what's happening over there?
We're just chilling over here.
Fucking arsonist, but fame's gonna arbitrist. A ride of partialist, the constant murderist. With bargain chips, not half in this. A full English cocky bastard, a Darwinist. The herbalistic lyricist, taking the piss, endorsing this. Demolish this, no substitute, but who resists? Big enough rappers that ooze the shit. Fucking up things like an activist. Bossing my job when you're all dismissed. I'm informed of your poor form in this. I send a swarm of logos in sandstorms, you're doomed in this.
The ancient streets of Paris, where is Pabish? By Mumasite the Kaddish, Sir Daikon vanished to the abbot. Monastical, syntactical jujitsu when it hits you. Grammatically precise like the blade of Yoshimitsu bomb like Mogadishu. Fanatic of the pattern, staying tangible and weave with undeniable ease. Yeah. They say his literary style is neoclassical. He's back from his sabbatical, it rang through the trees.
Hey, yo, what's popping over there?
Hey, yo, we're chilling over here.
Ooh, my people in the place.
Oh, forever in the air.
True brethren, spiritual monks. We in the groove session, shit is for dumb.
Hey, yo, what's happening over there?
We're just chilling over here.
Session shit is for dumb.
C'était Chinese Man avec All Tide sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous informer de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, on fait une petite pause spéciale animaux parce que ça fait du bien un petit peu. Même si on a quand même des articles scientifiques assez intéressants et notamment les moustiques. Est-ce qu'on imagine qu'on puisse être invisible aux yeux des moustiques ? Comme ça, ils passeraient autour de nous, ils ne nous apercevraient pas. Et comme ça, il deviendrait aussi inoffensif qu'une mouche. C'est un petit miracle. Eh bien, ça vient de se produire grâce à des chercheurs de l'Université de Californie aux États-Unis. Ils ont créé un moustique génétiquement modifié qui devient aveugle au contraste et est donc incapable de repérer ses hôtes. À courte distance, les moustiques femelles détectent la présence d'un hôte essentiellement grâce aux odeurs corporelles. Il y a certaines études qui ont également montré que les préférence des moustiques varie en fonction du groupe sanguin ou des bactéries de la peau. On sait très bien qu'il y en a qui attirent plus les moustiques que les autres. Mais avant cela, le moustique, avant qu'il soit proche du corps, il se fie à deux indices. Les indices visuels et le dioxyde de carbone. Et il y a plusieurs études qui ont ainsi montré que les moustiques sont particulièrement attirés par les personnes qui portent des vêtements foncés. Alors déjà, je ne le savais pas, alors maintenant je m'habillerai toujours en blanc. Et même en l'absence d'humains, le dioxyde de carbone stimule les moustiques à rechercher des images plus sombres. C'est ce que confirme Yupeng Zhang, qui est postdoctoral à l'Université de Californie et qui est donc le principal auteur de cette étude récente parue dans la revue Current Biology. C'est une fois que ces indices visuels l'ont amené à quelques centimètres de sa cible que le moustique va déterminer si cette cible constitue un hôte potentiel ou pas grâce aux odeurs corporelles. Alors, C'est une idée donc toute bête, c'est de rendre le moustique aveugle pour l'empêcher justement de pouvoir repérer ses proies. Ça serait assez génial. En utilisant une technique qu'on a évoquée tout à l'heure, la technique CRISPR, donc cette idée de pouvoir triturer un peu les chromosomes et donc ajouter des gènes supplémentaires et d'en retirer d'autres, et bien les scientifiques ont éliminé deux protéines qui sont exprimées dans les yeux des moustiques et ils ont constaté que lorsqu'ils sont exposés un flux de dioxyde de carbone. En fait, l'idée, c'est qu'on va imiter un petit peu la respiration humaine. Quand on respire, eh bien, on va expirer du dioxyde de carbone. Et donc, du coup, le moustique, il se dit, tiens, ding, 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 je vais regarder, et il ne voit rien, parce qu'ils ont perdu leur capacité à se diriger vers des taches, soit blanches, soit noires. Alors, les moustiques ne sont pas devenus aveugles. En fait, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de voir les contrastes. Donc du coup, ils sont incapables de pouvoir chasser leur proie en fonction d'une couleur foncée. Et ils ne voient pas grand-chose. Ils voient, mais ils ne voient pas les contrastes. Donc du coup, il ne va pas cibler essentiellement ceux qui sont habillés en noir. Il est important de souligner que cette étude a été menée en laboratoire, bien sûr, et que les chercheurs n'ont pas exposé les moustiques mutants à des proies réelles. Alors, il est possible que ces moustiques mutants soient quand même capables de repérer les humains avec ces autres sens, même de manière beaucoup moins précise et certaine. Donc on n'est pas encore tiré d'affaire. Il n'empêche que cette découverte pourrait constituer une nouvelle arme d'élimination des moustiques qui entraîne, on le sait, chaque année plusieurs millions de morts en transmettant des pathogènes responsables de maladies. Et donc, le scientifique explique, si les moustiques femelles sont incapables de voir leurs hôtes, elles auront plus de mal à trouver le sang nécessaire au développement de leurs œufs et la population s'effondrera. Ah, alors on aurait donc ces moustiques OGM qui seraient incapables de voir leur proie. Affaire à suivre, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez étonnant ce genre d'information, bien évidemment. Autre chose concerne les chats, mais je vous ai dit, là on fait la totale animaux, mais on en profite. Les chats, on le sait, en existe de toutes les couleurs, avec des motifs de pelage très variés. Eh bien, le mécanisme qui contrôle la répartition de ces couleurs intéresse depuis longtemps les chercheurs. Alors, ils savaient déjà que ces multiples couleurs sont données par différents types de pigments, noir, brun, jaune, rouge, mais la base génétique du mécanisme leur échappait toujours. Jusqu'à aujourd'hui, où une équipe de l'Institut de biotechnologie Hudson Alpha aux États-Unis est parvenue à identifier les molécules qui agissent sur l'établissement des motifs sur le pelage des chats tigrés. Les chercheurs ont travaillé sur près d'un millier de tissus de fœtus à différents stades de leur développement et ils ont découvert des altérations semblables à des rayures dans l'épaisseur des tissus cutanés dès le début du développement du fœtus. Il semblerait ainsi qu'avant même que les poils, les pigments entrent en jeu, eh bien les cellules soient prédestinées à recevoir une couleur de fourrure spécifique. Et en analysant l'expression génétique de ces cellules, les chercheurs ont ainsi déterminé que les différences dans l'expression des gènes entraîneraient des variations dans la forme et dans la couleur des motifs des fourrures. Et ces cellules qui expriment ce gène finissent par donner les rayures les plus sombres sur le pelage des chats. Donc on a pu identifier quelle cellule avait donné une couleur plutôt sombre, et les couleurs qu'il prend finalement sont ensuite déterminées par des mutations ou alors des altérations dans la pigmentation. Alors la découverte, elle pourrait aider à percer le secret des motifs qui apparaissent sur les fourrures d'autres animaux comme le tigre, comme le léopard, pourrait parce que comme le chat domestique a subi une reproduction sélective au fil des générations, il n'est pas certain que les mêmes processus moléculaires expliquent les variations de couleur chez les animaux encore sauvages. Mais en tout cas, voilà, on a pu comprendre pourquoi les chats sont rayés. Et je trouve que attendre 2021 pour avoir cette information, eh bien, ça nous donne une vie un peu meilleure, il me semble. Thank you. Voilà, c'était Biotine, émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission sur Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Internet. D'ici là, vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net. La semaine prochaine à 12h, on continuera de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Là, on s'est fait plaisir avec les animaux et la semaine prochaine, on reviendra à des choses un petit peu plus terre à terre ou des fois un petit peu plus dans l'espace. Bonne semaine, à bientôt. Bonne journée, à samedi prochain, au revoir.